Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Vous m'avez pas vu pendant 2 semaines. Non pas que je vous fuyais, mais j'étais parti. Et comme on dit, les voyages forment la jeunesse, mais forment aussi la vieillesse. Ce voyage m'a donné le thème de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. D'abord, juste en préambule, je veux dire que je ne sais pas si vous avez tous fait cette expérience. On part, on est content, mais on est tous content de rentrer, bien sûr. Et le fait de retrouver son église, son assemblée, ses frères et ses sœurs, malgré tout, parfois, on n'est pas amis complètement avec tout le monde. On est frères et sœurs avec tout le monde. Et c'est une chance, c'est une force, c'est une véritable ancre de savoir que cette fraternité, elle va bien au-delà des liens, qui peuvent être plus ou moins importants selon les caractères, mais qui sont forts avec tout le monde parce que nous croyons à tout ce que Emmanuel a pu énoncer ce matin. Et j'en ai encore fait l'expérience en étant loin de vous pendant ces 15 jours, en étant heureux d'être ailleurs, mais en étant tellement heureux de vous retrouver et de se dire que même quand j'étais loin, j'avais une partie de mon cœur qui était avec vous, mais le cœur qui est relié là-haut. Alors, pour ceux qui sont de passage, toute cette année, nous avons parlé de personnages bibliques que nous pouvions choisir un peu à notre gré. Et je pense qu'on va terminer là, puisqu'en septembre, on va peut-être. Donc c'est mon dernier personnage biblique que je vais présenter aujourd'hui. Et c'est pas le plus simple. Alors ma spécialité, ça avait été de présenter que des femmes, pour ceux qui s'en souviennent et qui étaient présents. Et aujourd'hui, je vais terminer par la plus difficile, la plus emblématique, en même temps celle qui fait heurter le plus les confessions chrétiennes, puisque je vais vous parler de Marie. Alors à une époque, j'espérais que ça soit Yann qui se lance, puisqu'il avait fait Ève. Et puis, finalement, Marie s'est imposée à moi, donc je lui coupe l'herbe sous le pied. Et j'espère être à la hauteur de ce que lui aurait sûrement pu nous apporter, ce qui n'empêchera pas dans un deuxième temps s'il veut ajouter des choses. Alors pourquoi Marie? C'était pas du tout ce qui était prévu, parce que, donc, les fameux voyages qui forment la vieillesse, j'étais en Bretagne, et pendant la période du 15 août. Et j'étais au bord de mer, avec la marée basse, vous connaissez ça, ici on ne connaît pas. Et à un moment, j'étais surpris de voir le matin du 15 août une procession énorme à marée basse qui allait dans une île près de Morlaix, à Carantec, pour ceux qui connaissent, un petit village de pêcheurs. Et il y avait le prêtre dans une très belle tenue, une foule de gens qui suivaient avec les étendards et portant une statue de Vierge Marie, et tout ça avec beaucoup de solennité, donc c'était impressionnant. Puis après, j'ai été dans le village un peu plus tard dans la journée, et l'église était pleine de gens. La Bretagne est un endroit très catholique, et c'était impressionnant. Alors moi, le 15 août, je faisais rien, j'étais à la pêche, enfin voilà, je me disais, bon, zut, j'ai raté quelque chose. Et sur tous les magasins, il était marqué fermé à cause de la fête de l'Assomption. Donc évidemment, en tant qu'ancien catholique, je savais de quoi il retournait, mais donc j'ai été impressionné. Puis j'ai lu un article dans le jour même du Figaro qui m'est décrit par le vicaire de l'église de Saint-Germain-des-Prés qui s'appelle « Le sens de l'Assomption », donc toute chose que je savais a priori, mais j'ai été interpellé dans mon quotidien en quelque sorte par cette solennité qui se dégageait dans la vie de ce petit village. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, il faut que je parle de Marie, parce que j'ai envie de savoir, de retourner aux choses que je crois savoir, mais pour être sûr que je suis dans la vérité de la parole. Et puis je me suis dit, puisque c'est un sujet un peu dangereux, peut-être que beaucoup d'entre vous, si vous n'êtes pas d'origine catholique, vous n'êtes peut-être pas au courant de ce qu'est Marie, de ce qui elle est vraiment dans la Bible, et de ce que l'Église catholique en pense, etc. Alors, je le dis tout de suite, je n'ai aucune envie je devais taper sur personne, je ne vais pas dire que nous on a raison, eux ils ont tort, je ne suis pas dans cet esprit-là. Je vais essayer simplement de nous faire comprendre comment on en est arrivé à ce culte marial, d'où ça vient. Ça a été fait par des hommes et des femmes qui sont comme vous et moi, donc ils doivent bien avoir une bonne raison. Et l'idée, c'est pas de faire de l'œcuménisme, c'est simplement de nous instruire un peu plus. Et à travers cette instruction qui va être peut-être un peu scolaire, un peu pédagogique, essayer de voir ce que Marie a réellement à nous dire à nous, personnes du 21e siècle, dans notre vie quotidienne. Voilà. Parce que moi, quand j'ai vu toutes ces personnes-là, je me suis dit, mais Que croyons-nous vraiment? Ça rejoint un peu toute ton introduction. À quoi croyons-nous? Et eux, à quoi croient-ils? Est-ce qu'il y a une espèce de syncrétisme général qui fait qu'on est... Finalement, tout ça, c'est une base centrale, et puis les petits arbustes sur les côtés ne sont pas très importants? Parce que si on est réunis là ce matin, c'est qu'on croit à quelque chose. Sinon, on serait à la plage ou dans notre lit. Si on donne ce mal-là, c'est pas pour faire plaisir les uns aux autres pour se montrer. C'est parce qu'on en a besoin. Et on est heureux de partager ça. Mais à quoi croyons-nous? Et donc, je vous le dis, mon passé d'instituteur va rejaillir. Donc j'espère être clair et en même temps, que ça ne soit pas une conférence, mais que ça soit aussi une prédication, dans le sens que ça nous apporte quelque chose sur notre vie quotidienne et notre foi. D'abord, je voudrais... Alors, vous voyez, j'ai amené beaucoup de livres. J'en ai au moins 5 ou 6, parce qu'évidemment, c'est tout ce que je lis au fur et à mesure. Je n'ai pas tout lu. Alors, j'ai nulle prétention d'avoir inventé quoi que ce soit, surtout pas sur ce sujet. Donc, je me suis inspiré de plusieurs livres, dont un de Henri Gras, qui s'appelle « Marie servante du Seigneur ». J'ai pioché un peu à droite à gauche, donc... Tout ça est un partage de connaissances, en quelque sorte. Alors, d'abord, on va commencer par le plus important, les faits bibliques. Que dit la Bible sur Marie? Voilà, précisément, exactement, que dit la Bible sur Marie? Alors, il faut savoir qu'il y a 4 prophéties sur Marie dans l'Ancien Testament, hein, sur le fait que la Vierge naîtra le Sauveur, qu'il va naître à Bethléem, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout... ce qu'on en dit dans le Nouveau Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, elle est citée seulement 18 fois. Ce n'est pas un personnage central de la Bible. Évidemment que c'est un personnage central de par ce qu'elle fait, le fait qu'elle est la mère de Jésus, mais dans l'action de la Bible, du Nouveau Testament, dans la mise en place de la foi, c'est un personnage mineur. Et d'ailleurs, Jean n'en parle pour ainsi dire pas. Il en parle 3 fois succinctement. Marc, pareil, il n'y a que Luc et Matthieu, parce qu'eux qui parlent beaucoup de l'enfance, c'est là que Marie intervient le plus. Donc on en parle beaucoup à la naissance, dans les premières, la jeunesse de Jésus, et pendant le ministère, très peu. Alors, évidemment, ensuite, dans les actes des apôtres, un tout petit peu, puis dans les épîtres, rien, rien, rien. Marie n'est pas un personnage central du Nouveau Testament, au sens nombre de lignes, en quelque sorte, et même au sens de ce qu'elle va apporter pour la mise en place de la foi. Alors, je vais vous lire donc ce qu'a très bien fait un des auteurs que je vous ai cités. Chronologiquement, il y a 2 petites pages, ce qu'on peut tirer de manière tout à fait sans aller plus loin que ce que dit le texte. Voilà ce qu'on apprend, résumé, sur Marie, ce que nous dit le Nouveau Testament. Donc, elle est vierge, fiancée à Joseph, qui est un descendant de David. Ils habitent Nazareth en Galilée. Un ange, Gabriel, lui parle et lui révèle qu'elle sera enceinte par la seule action du Saint-Esprit, qu'elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. On lui dit qu'il sera grand, appelé fils du Très-Haut, et régnera éternellement sur Israël. L'ange lui révèle aussi la grossesse miraculeuse de sa cousine, réputée stérile et en plus d'un âge avancé. Marie croit à cela, obéit et se déclare la servante du Seigneur. Elle visite donc sa cousine Élisabeth. Celle-ci, remplie du Saint-Esprit, confirme à Marie le miracle dont elle est l'objet. Marie exalte à son tour le Seigneur et dans sa louange prophétique confesse que Dieu est son sauveur, qu'il a jeté les yeux sur sa bassesse, qu'elle est sa servante, qu'il a fait pour elle de grandes choses, qu'elle reconnaît la sainteté de Dieu et son action puissante et souveraine, tant pour l'humanité que pour Israël, en accomplissement de ses promesses. Elle vit avec Joseph en état de virginité jusqu'à la naissance de Jésus. Elle donne naissance à Jésus dans la crèche de Bethléem où lui rendent visite successivement des bergers et des savants qu'on a coutume d'appeler des mages. D'un commun accord avec Joseph, elle fait circoncire Jésus, âgé de 8 jours, et lui donne son nom conformément aux instructions de l'ange Gabriel. Accompagnant Joseph, elle présente Jésus âgé de 41 jours au temple de Jérusalem, et les deux époux offrent à cette occasion le sacrifice de purification prescrit par la loi mosaïque. Elle reçoit alors les révélations prophétiques des vieillards Siméon et Anne relatives à Jésus et à elle-même. Elle s'unit sexuellement à Joseph, qui devient de la sorte pleinement son mari. 4 fils et au moins 2 filles naîtront de leur union, plus tard, évidemment. Avec le petit enfant Jésus, elle suit Joseph dans la fuite en Égypte, puis retourne en Palestine et s'établit à Nazareth. Un premier signe d'incompréhension spirituelle se manifeste entre elle et Jésus lorsque celui-ci, âgé de 12 ans, est retrouvé par ses parents après 3 jours de recherches angoissées, s'entretenant avec les docteurs de la loi dans le temple de Jérusalem. Présente aux noces de Cana avec Jésus, elle remarque que le vin fait défaut et invite son fils à intervenir. Celui-ci la reprend et lui donne à sentir le fossé qui les sépare, à comprendre qu'il ne reçoit d'ordre que de Dieu et pas d'elle. Pas plus que Joseph, son père adoptif donc, de Jésus, elle ne comprend l'orientation prise par le ministère de leur fils. L'enseignement et les interventions miraculeuses de son fils provoquent une vive opposition de la part des autorités religieuses qui complotent pour l'illuminer. Alors, Joseph et Marie, jugeant Jésus hors de sens, cherchent à se saisir de lui pour l'arrêter sur une voie qu'ils jugent dangereuse pour sa vie. Accompagnée de ses fils cadets, elle fait demander Jésus pressé par la foule et suit de sa part une fin de non-recevoir très significative. La vraie parenté reconnue par Jésus n'est pas charnelle, mais spirituelle. Une femme dans la foule la déclare heureuse d'avoir engendré Jésus. Le Sauveur lui répond que l'écoute de la parole de Dieu et l'obéissance à sa volonté sont une source de joie beaucoup plus grande et préférable. Elle vient au pied de la croix où Jésus agonise. Là, le crucifié désigne Jean comme son fils et il demande aux disciples de la considérer comme sa mère. Elle persévère dans la prière à la suite de la mort de Jésus. Associée aux 11 disciples et à quelques fidèles au ressuscité dans la chambre haute de Jérusalem, donc après la résurrection, elle y attend en pleine communion avec eux le consolateur promis par Jésus. Et le jour de la Pentecôte, elle est remplie du Saint-Esprit et participe à la bénédiction collective, réception des langues de feu, expression spontanée en d'autres langues. La révélation du ministère de Jésus, son Fils et son Sauveur, lui est pleinement accordée. C'est ça, Marie. Alors évidemment, ça a été résumé dans une autre langue, celle de la Bible, mais je pense qu'au fur et à mesure, vous avez reconnu tous les épisodes dont il est question. Marie, dans la Bible, c'est ce dont je viens de vous parler. Ni plus, ni moins. C'est déjà beaucoup, mais il n'y a pas plus. Alors, ça, c'est ce que nous considérons, nous, connaître de Marie, et c'est sur ces écrits-là que nous fondons notre relation avec elle, enfin notre manière d'en parler. L'Église catholique, elle, va aller plus loin selon ce qu'on appelle les règles du magistère. Voilà. Il faut savoir que l'Église catholique fonde sa foi, qui est la foi chrétienne, la leur, c'est là que c'est un peu difficile, sur nous, nous la fondons sur les Écritures, ce qu'on vient de lire sur Marie. Eux, ils vont dire les Écritures, absolument. Ils vont rajouter la tradition, tout ce qui a été rajouté au fur et à mesure par les croyants. Et enfin, ce qu'ils appellent les écrits des pères de l'Église, le magistère en quelque sorte, tout ce que les hommes saints, successeurs des apôtres, évêques ou papes, ont pu ajouter pour que la foi soit complétée. Et donc, j'aimerais juste vous lire rapidement ce qu'est pour eux le magistère, parce que c'est important, c'est une très vieille définition. Il existe un rapport vital entre la tradition, l'écriture et le magistère. Si l'écriture est la révélation que porte la tradition, si toutes deux sont la règle du magistère, celui-ci interprète l'écriture et témoigne de la tradition. Sans cette unité profonde qui les rend absolument solidaires, l'écriture risquerait d'être lettre morte, la tradition choix discutable, et le magistère, ingérence arbitraire de l'homme dans les mystères de Dieu. Donc, pour eux, tout ce qui va être rajouté après, par les successeurs des apôtres, est ce qui fait vivre la parole, et ce qui donne sens à la tradition. Écoutons à ce propos ce que dit le pape Jean-Paul II, tout le monde se souvient du pape Jean-Paul II à ce sujet, sur le fait qu'ils sont les seuls dépositaires de la révélation divine, de son interprétation authentique, et surtout, du pouvoir qu'ils ont de la compléter. Le Saint-Esprit garde les successeurs des apôtres, vos évêques, à qui a été confiée la tâche de préserver la foi et de prêcher l'évangile à toute créature. Écoutez leur voix, car ils vous portent la parole du Seigneur. Et c'est au nom de cette autorité que des nouveaux dogmes ont été introduits dans la pratique religieuse au cours des siècles. Alors, par quel moyen ce magistère donc va-t-il introduire ces nouveaux dogmes? Très rapidement, il y en a trois. Ce qu'on appelle la voie extraordinaire, la plus importante, soit un concile se réunit, c'est que les évêques se réunissent avec le pape et ils décident que la doctrine doit évoluer, que des choses vont changer. Et évidemment, celui qui a le pouvoir suprême, c'est le pape qui, lui, va énoncer des dogmes en disant « Maintenant, la foi a avancé dans ce sens-là. Et ce que je vous révèle, soit par le concile, soit moi tout seul, est infaillible et inéformable. » Ensuite, il y a la voie ordinaire. Le pape, souvent, écrit des livres sur lesquels il a beaucoup réfléchi, qui s'appellent des encycliques. C'est un mot que vous avez dû entendre. Alors, l'encyclique, c'est non infaillible et c'est révisable, mais c'est les premières pensées du pape qui mènent souvent vers le dogme. Et puis enfin, la dernière voie, c'est la voie qu'on appelle d'usage prolongé, avec le temps. Tout ce qui a été fait, vécu, cru par les croyants va devenir en fait force de loi. Et on se rend compte que si l'ordre hiérarchique est celui-ci, la plupart des dogmes, même tous, ont été mis en place en fait en sens inverse. Il y a d'abord eu un usage prolongé, une tradition, une foi, qui ensuite a été verbalisé pour qu'on y réfléchisse. Et enfin, dernier étage de la fusée, le pape ou le concile décide que ça devient acte de foi. Voilà, c'est important que je vous décrive ça pour que vous compreniez que ce que je vais vous dire sur Marie ensuite ne vient pas de n'importe où. Voilà, c'est une longue tradition. C'est quelque chose qui est nourri de la vie de l'Église, de notre Église. Nous venons de tous ces croyants précédents, depuis 2000 ans, qui ont vécu ce dont je viens de vous parler. Alors, là encore, je vais continuer en 5 secondes, allez, 30 secondes, simplement vous décrire les 5 étapes très rapides de l'évolution de notre Église. Et vous verrez que c'est intéressant de voir à quel moment les dogmes sur Marie se sont mis en place. Alors, la première étape, c'est l'Église apostolique, l'Église des apôtres, l'Église martyre, donc environ en l'an 30, en gros, à la mort à la résurrection de Jésus, à son départ, jusqu'à l'an 313. Alors, que se passe-t-il? L'Église primitive s'étend grâce au ministère des apôtres, Paul, Pierre, Jean, etc., dans tout l'Empire romain, mais tout ça au prix de persécutions et de nombreuses hérésies. C'est une Église en difficulté, une Église chaotique, une Église peu nombreuse, qui petit à petit essaime. Dans cette époque, il n'y a rien sur Marie. Rien. Il n'y a aucune chose qui met en place, aucune tradition qui arrive. Pourquoi? Parce que les apôtres, eux, ils ont vu Jésus, ou bien ils ont été en contact avec des textes de gens qui étaient... Donc c'est vraiment là le premier lien. Ils ont sous la main ce que je vous ai dit, et encore un peu moins précis, tout ce qu'il y a sur Marie, donc ils n'en tirent pas plus de conséquences, ils ont leur peau à sauver, donc ils disent qui est Jésus, et là est leur révélation. Donc Marie n'intervient pas plus que, je dirais, pour nous en quelque sorte. Deuxième étape, vous savez tous qu'en 313, l'empereur Constantin, empereur romain, se convertit au christianisme. Donc, changement énorme historique, d'une religion, d'une foi cachée dans les catacombes, ça devient la religion d'État. Donc, fin des persécutions, et puisque c'est la religion d'État, et que l'Empire romain, vous savez, brille dans toute l'Europe et au-delà, eh bien, la religion va avec l'empereur. Et donc, si on essaye d'imposer ça aux gens, on commence à faire des compromis de foi, des compromis de doctrine, pour que tout le monde accepte de rentrer dans cette religion d'État. Et c'est le début de la dévotion à Marie. Sous quelle forme? Très simple. Les populations qui tombent sous le joug romain, elles sont des populations de religion païenne, avec des dieux et des déesses. Or, dans la religion que leur impose l'empereur, pas d'homme, pas de femme. Il y a Jésus. Il y a un manque. Donc, on va introduire, à la place des déesses, la possibilité d'avoir une image féminine qui puisse donner aux nouvelles populations converties de force le sentiment de ne pas être totalement perdu par rapport à leurs croyances anciennes. Et c'est là que Marie, apparaissent des premières statues, quelque chose qui va être le culte à Marie, pour, comme j'ai compris, donc vous avez compris, compenser les déesses perdues. Et c'est intéressant aussi de voir que beaucoup de lieux, de premiers lieux de construction, d'églises, de chapelles, etc., des lieux sacrés, ont été faits sur d'anciens lieux païens, pour permettre aux gens, justement, de ne pas être totalement perdus dans la nouvelle religion qu'on leur a posée. Et c'est là que l'évêque de Rome, très important, parce qu'au début, il y avait plusieurs centres de foi... Antioche, Jérusalem, etc., qui avaient chacun leur évêque, qui se réunissaient de temps en temps pour se mettre d'accord. Et là, l'évêque de Rome, évidemment, puisque Constantin est l'empereur, qui vit en Italie, devient le principal, et petit à petit met sur la touche les autres pôles chrétiens, et c'est là qu'il gagne le titre de souverain pontife. Ensuite, troisième époque, donc ça va être du schisme d'Orient à la Réforme. Donc, l'Église associée à l'État, ça va être assez long, c'est de 313 à 1054. Alors pourquoi 1054? Puisque c'est à ce moment-là qu'il y a le schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, ce qu'on a appelé le schisme, avec la création des orthodoxes et des catholiques. Donc c'est une étape très très importante, puisque là, le christianisme européen, de sorte, va vraiment asseoir sa puissance, sa force. Petit à petit, tous les gouvernants, s'ils n'ont pas reçu l'aval du pape, n'ont pas la légitimité voulue. Donc la religion chrétienne, à travers le catholicisme, en Europe tout au moins, prend la place la plus importante. Tout ça commence à se structurer. Et c'est là qu'on fait les croisades et toutes choses que vous connaissez. Évidemment, il va y avoir le début, dès que le pouvoir est en place, il y a toutes les déviances du pouvoir. Donc vous savez, les antipapes en Avignon, toute une série de papes tout à fait indignes. Tout ça va amener aussi des contestations avec les cathares, de l'Inquisition. Donc c'est une période difficile, et parce que le pouvoir doit être pris de façon assez brutale, entre guillemets. Puis on arrive à la quatrième époque de la réforme au Concile Vatican II. Alors jusqu'ici, on parle, ce que vous dites, c'est nous, hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de protestants, il n'y a rien. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, c'est notre Église à nous qui grandit. Vous savez que l'invention de l'imprimé par Gutenberg en 1450 va permettre la diffusion de la Bible. Donc la lecture de la Bible fait que la connaissance s'accroît. Et puis, face aux réactions à la corruption du clergé, la réforme se met en place avec Luther, etc. En Angleterre, Henri VIII va créer l'Église anglicane. Puis ça va être la guerre des religions. Et en même temps, parallèlement, l'évangélisation du Nouveau Monde, puisqu'on a découvert toutes les routes qui mènent à l'Ouest comme à l'Est. Et c'est à ce moment-là que commencent vraiment les apports fondamentaux de la foi. Alors, dans l'étape précédente, j'ai oublié de vous dire que ce qui se met en place à ce moment-là, c'est l'idée de la virginité éternelle de Marie, et aussi le fait que Marie soit la mère de Dieu. Tout ça se met en place dans cette étape du Moyen-Âge dont je vous ai parlé précédemment. Et là, dans ce grand moment de violence entre les différentes branches chrétiennes qui se mettent en place, dont nous avons parlé, protestants, catholiques, etc., anglicans, là, le culte marial va vraiment exploser et prendre toute sa place, car l'Église catholique s'aperçoit qu'elle doit s'appuyer sur quelque chose de plus, en quelque sorte, par rapport aux autres églises, pour pouvoir drainer les fidèles et ne pas les voir partir. Et donc, on voit apparaître à ce moment-là beaucoup d'apparitions de la Vierge, qui vont entraîner des centres mondiaux de pèlerinage. Et on va introduire deux choses importantes, l'Immaculée Conception et l'Assomption. J'y reviendrai plus tard. Puis on arrive à la dernière étape du Concile Vatican II jusqu'à nos jours. Concile Vatican II, donc vous savez, c'est l'Église catholique qui se réforme, qui réforme son culte, qui ouvre le principe de la liberté religieuse, de la tolérance, l'ouverture aux frères séparés, comme ils disent. L'Église catholique va se séparer entre les croyants progressistes et les croyants intégristes. Et tout ça va mener jusqu'à Jean-Paul II, qui est suivi maintenant par Benoît VI et le pape François, sur l'enrichissement total de la dévotion mariale qui va atteindre son apogée et que l'on connaît aujourd'hui. Donc, il faut bien se dire que tous ces apports, ils ont été, donc, vous avez vu, progressifs. Alors maintenant, je vous les ai mis dans l'histoire, je vais vous les redire très précisément. Maintenant, mais chaque date vous permettra de le replacer dans la bonne histoire. Donc, en 374, Épiphane dit que Marie a toujours été vierge. En 430, Cyril d'Alexandrie proclame Marie mère de Dieu. En 1477, le pape Sixte IV rend témoignage officiel à la Vierge Immaculée, reine des cieux. En 1483, Sixte IV institue la messe dite de l'Immaculée Conception. Alors, l'Immaculée Conception, c'est le fait que Marie est née sans péché. En 1854, Pie IX définit le dogme de l'Immaculée Conception. Vous avez vu toutes les étapes dont je vous parlais, la tradition, on en parle, et finalement c'est un dogme. Donc Marie Donc, en 14, donc vous voyez que tout ça est très récent. 1854, il a fallu donc près de 1800 ans pour que Marie devienne toujours vierge, qu'elle soit la mère de Dieu et non plus la mère de Jésus, et qu'elle soit donc la reine des cieux et qu'elle ne soit immaculée conception, qu'elle est créée sans le péché originel. Et ça s'accélère. Alors je vais juste vous lire ce que c'est que le dogme de l'immaculée conception. Donc ça date d'il y a 150 ans, vous voyez, c'est pas vieux. Écoutez bien, nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, elle a été préservée intacte de toute souillure du péché originel. Et ceci est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Et la suite dit que ceux qui ne croient pas à ça sont rayés de la foi. En 1891, Léon XIII institue Marie médiatrice dans son encyclique. C'est-à-dire que Marie, à ce moment-là, prend un rôle supérieur. Elle devient l'avocate auprès de son fils Jésus, des hommes et des femmes sur terre. Jésus étant lui-même ensuite l'avocat suprême auprès de son père. En 1904, pas vieux, Pie X institue Marie ministre suprême de la dispensation des grâces. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la conséquence de cette communauté de douleurs et de sentiments entre Marie et Jésus, c'est que Marie mérita largement de devenir la réparatrice de l'humanité déchue. C'est-à-dire que là, on passe encore à un grade supérieur. Elle n'est plus seulement l'avocate, elle devient aussi la personne qui peut pardonner, qui peut faire passer de la mort à la vie, à l'égal de son fils. Et partant, elle mérite largement de devenir la réparatrice de l'humanité déchue et partant la dispensatrice de tous les trésors que Jésus nous a acquis par sa mort et par son sang. Certes, nous ne nions pas que la dispensation de ces trésors ne soit un droit propre et particulier de Jésus-Christ, car ils sont le fruit exclusif de sa mort, et lui-même est par nature le médiateur entre Dieu et les hommes. Toutefois, en raison de cette société de douleur et d'angoisse entre la mère et le fils dont nous parlions, il a été donné à cette auguste Vierge d'être auprès du Fils unique, la très puissante médiatrice et avocate du monde entier. En 1943, Pie XII précise le rôle exceptionnel de Marie dans l'œuvre de la rédemption. Il la proclame reine des martyrs. Et enfin, en 1950, la base de ma prise de parole, Pie XII définit le dogme de l'Assomption, c'est-à-dire il y a 67 ans. Et voici, dans mon fameux article, voici comment Pie XII définit sommairement le dogme de l'Assomption, et le prêtre écrit, tel qu'il a toujours été cru depuis les origines apostoliques de l'Église. C'est intéressant parce qu'on a vu que ce n'est pas vrai, ça. C'est le principe, c'est que quand il y a une vérité qui devient un peu de foi, ensuite on va faire la marche arrière pour trouver toutes les bonnes raisons, pour dire, vous voyez, ça vient de la tradition, donc on a simplement conclu sur un fait certain. Donc voici ce que dit Pie X en 1950. La Vierge Immaculée, donc chaque mot prend état de ce qui a été ajouté précédemment. La Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché et de la mort. Ce n'est pas fini. En 1968, Paul VI, pour les plus anciens, proclame Marie mère de l'Église. Et elle continue au ciel son rôle maternel à l'égard des membres du Christ. Et enfin, le haut de la fusée, l'étage final, vous voyez qu'il s'est construit petit à petit. Jean-Paul II, et ça n'a pas été remis en cause ni par Benoît XVI, ni par le pape François, ni encore moins par... Jean-Paul II proclame tout par Marie. Il dit... Vous devez annoncer Christ qui est son fils, mais qui mieux que sa mère vous transmettra la vérité sur lui? Ou bien, tout à travers Marie, telle est l'interprétation authentique de la présence de la mère de Dieu dans le mystère de Christ et de l'Église. Confier le monde au cœur immaculé de Marie signifie nous approcher grâce à l'intercession de la mère, de la source même de la vie qui a jailli à Golgotha. Et enfin, en demandant à son disciple préféré de considérer Marie comme sa mère, Jésus a fondé le culte marial. La boucle est bouclée. On était parti du texte, et Jean-Paul II, à la fin de sa vie, dit, je reviens au texte, tout le culte marial dont je viens de vous parler, tous les étages, en fait, viennent du texte initial. Alors, cette fusée à plusieurs étages, elle semble bien construite. En tout cas, c'est la structure de millions et de millions de catholiques dans le monde. Elle peut poser question, parce que moi, j'ai dit à ce moment-là, qu'est-ce que je dois croire, finalement ? Je n'ai pas de vérité révélée, je dis que c'est la Bible, comme je vous expliquais au début, mais pourquoi il n'y aurait pas d'autres possibilités de rajout de choses ? Alors, évidemment, la question, c'est essentielle. Est-ce que la révélation de Dieu s'est terminée avec l'Apocalypse ou non ? Si oui, tout ce qu'on vient de dire, c'est faux. C'est à côté, c'est dangereux peut-être. Ou bien, si oui, eh bien, pourquoi passerions-nous à côté de cette nouvelle révélation et de ce nouveau personnage qui peut nous aider peut-être mieux s'approcher de Jésus ? Alors là, je fais une parenthèse et je le dis avec beaucoup de sincérité. Donc, je vous dis que je viens d'un milieu catholique et j'ai entre autres un cousin, j'ai beaucoup de cousins, qui est croyant, et j'avais entamé avec lui cette conversation il y a 15-20 ans, sur mon protestantisme fier, parce que j'étais un renégat, un peu. Et donc, il était d'accord sur beaucoup de choses, oui, là. Et à un moment, j'ai parlé de la Vierge Marie. Il m'a dit, stop. Cet homme, est un orphelin, il a perdu sa mère à 2 ans. Il m'a dit, la Vierge Marie, ça a été ma mère. C'est elle qui m'a aidé, qui a été l'image humaine dont j'avais besoin, elle m'a donné tout ce qu'une mère n'a pas pu me donner en vrai, c'est elle qui me l'a donné. Et grâce à ça, je crois en Dieu. Voilà, donc là, à partir de ce moment-là, moi je ne dis rien, on vit dans l'intimité des gens, et si il a fallu qu'ils passent par ce truchement-là pour être chrétien, c'est vous voyez qu'on touche à des choses extrêmement difficiles sur lesquelles l'anathème est vraiment totalement illogique. Alors, vous connaissez tous les quelques bases qui permettent de connaître la réponse à cette question existentielle. Est-ce que les textes suffisent à la fin de l'Apocalypse ou il faut en rajouter ? Je vais vous en lire 3 que vous connaissez. Jude, la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. L'Apocalypse, dernier mot, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Et enfin, dans 2 Pierre 1:3, la puissance divine de l'Éternel nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de Jésus. Et vous savez qu'il y a d'autres textes. Donc, il est très difficile pour moi d'accepter le fait qu'il puisse avoir une révélation postérieure, car les textes me semblent, de ce point de vue-là, clairs sur le fait que la révélation a été faite une fois pour toutes et que nous devons nous en tenir là. Alors, ceci dit, il faudrait revenir aux 5 grandes étapes, et je terminerai sur ça, dont je vous ai parlé, pour voir si dans la Bible, puisque nous disons, et que la Bible a l'air de nous dire que le texte seul prévaut, qui nous a été révélé, est-ce que dans la Bible, il y a des choses qui disent le contraire de ce que le magistère a pu énoncer sur Marie dans les siècles dont je viens de vous parler ? Prenons les 5 morceaux rapidement, un par un. La virginité perpétuelle de Marie, qui est donc la première étape de la dévotion. Dans Matthieu 1, 25, il est mis textuellement « Joseph ne connut pas Marie avant la naissance de Jésus ». Il n'y a pas de relation sexuelle avec Marie. Donc, on est bien d'accord sur la virginité, le miracle absolu de la naissance de Jésus, qui est fils de la femme, certes, mais qui est fils de Dieu aussi, par ce miracle-là. Par contre, après, donc je vous ai parlé, et ça c'est quelque chose qui est écrit, donc j'ai beaucoup de mal à passer à travers, donc sur les fameux « si Jésus a eu des frères et des sœurs, manifestement, c'est qu'elle n'a pas été vierge tout le temps ». Excusez-moi, là, j'ai pas d'explication. Et ces fameux frères et sœurs, ils existent dans Matthieu 13, chapitre 50, verset 53 à 58. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là. Il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue de telle sorte qu'ils étaient étonnés. Il disait, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? Donc c'est les gens qui disent ça. Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où vient donc tout cela ? Alors la réponse des catholiques sur ça, c'est de dire non, c'est des cousins. Or, alors j'ai d'autres bouquins où c'est en grec, Yann serait plus fort que moi, le mot cousin, qui est employé à d'autres endroits, est un autre mot que le mot frère et sœur venu du sang. Voilà, donc là, on peut dire ce qu'on veut, c'est comme ça. Donc le premier, la virginité perpétuelle de Marie, et c'est, se heurte au texte. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse, puisqu'on dit, nous, que c'est toute la Bible, que le texte, croyons jusqu'au bout, le texte dit la virginité perpétuelle de Marie, non. Non, c'est comme ça. Deuxièmement, l'Immaculée, deuxièmement, la Mère de Dieu. Elle n'est pas la Mère de Dieu, elle est la Mère de Jésus. Et dire qu'elle est la Mère de Dieu, c'est tout de suite lui conférer un rôle supérieur, évidemment. Mère de Dieu, c'est-à-dire super Dieu. Non, elle est la Mère de Jésus. Le mystère de l'incarnation, c'est ça. C'est que Jésus, Dieu immense, se met dans un petit corps de femme, dans un corps humain, pour devenir le Fils de l'homme. Vous vous souvenez, dans la Bible, on dit souvent Jésus, Fils de l'homme, aussi, Fils de Dieu. Elle est là la différence. Il est Fils de Dieu parce que son Père est Dieu. Mais il est Fils de l'homme parce qu'il est le Fils de Marie. Donc Marie, Mère de Dieu, ne tient pas avec ce Fils de l'homme et ce Fils de Dieu. Ensuite, il a été dit, c'est la Mère de Dieu, la Mère de l'Église, donc, avec cette fameuse phrase au pied de la croix, « Fils, voilà ta mère », sauf qu'il ne dit pas à Marie « Mère, voilà ton fils », qui symboliquement aurait pu fonctionner, il dit « Femme, voilà ton fils ». Et ce « femme-là » remet la relation de Marie et Jean dans un contexte totalement humain. La notion de maternité qu'on aurait pu associer à ce moment-là à mère de Jean, qui n'est pas son vrai fils, donc mère de l'Église, mère de tous, ne fonctionne pas. Troisième point, on remonte le temps, l'Immaculée Conception de Marie. Alors, ça, c'est très difficilement soutenable sur les textes, hein, sur la tradition, sur les pères de l'Église. Oui, très très bien, ça je ne conteste pas. Mais je me dis que ce n'est pas parce que nous croyons à quelque chose qu'il faut croire n'importe quoi. Alors, on est là, notre expérience de chrétien nous a fait vivre une expérience personnelle avec Dieu qui fait qu'on a cette relation, qu'on croit en lui. Et du coup, on s'appuie sur quelque chose d'écrit pour donner du poids à cette relation. Voilà, il y a quelque chose de scientifique dans notre croyance, en quelque sorte. Il y a des textes auxquels notre intelligence peut se raisonner. Et si on se confie que à ces textes-là, que disent-ils sur l'Immaculée Conception, c'est-à-dire une Marie créée sans péché, elle dit elle-même le contraire. Elle dit que Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Quand elle a, après avoir accouché, elle va à Jérusalem pour faire les 41 jours de purification, où elle ne peut toucher personne. Comment quelqu'un qui serait sans péché irait se faire purifier ? Et surtout, écoutons ce que dit l'apôtre Paul. « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc admettons que Marie y ait été par humilité. Paul, quand il parle plus tard, aurait dû à ce moment-là écrire « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, à l'exclusion de Marie, préservée du péché dès sa naissance par une grâce particulière dont aucun autre humain n'a bénéficié et ne bénéficiera. » Paul n'a pas écrit ça. Enfin, il faut savoir que ce dogme de l'Immaculée Conception a été aussi inscrit sur ce que dit Luc au tout début, quand on vient rendre grâce à Marie du fait qu'elle a été choisie par Dieu pour donner naissance à Jésus. Et au chapitre 1, verset 28, il est écrit « L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » En effet. Vous savez tous que le texte a été traduit différemment et que dans la prière catholique, il est écrit « Je te salue, toi, pleine de grâce ». Évidemment, le « pleine de grâce » donne le côté immaculé de la chose, pleine de grâce, c'est-à-dire sans la moindre tâche, sans la moindre erreur, alors que le texte initial, c'est « à qui une grâce a été faite ». Ensuite, la fonction de médiatrice. Alors, ça c'est d'autant... La foi catholique, chrétienne, catholique, à aucun moment ne se réfère à un texte précis à ce sujet-là. Mais moi, je ne peux que redire ce que dit l'apôtre, par exemple, Timothée, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et dans Hébreux, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc là encore, moi je suis prêt, ouvert à tout, à croire tout ce qu'on veut, mais le texte me dit qu'il y a un seul médiateur. Et si mon parti pris intelligent, parce que Dieu m'a voulu intelligent, c'est de dire, je considère que ma foi, à partir de mon expérience personnelle, ne résonne, ne se pose que sur le texte dont on dit qu'il n'y a que celui-là qui fonctionne, je ne peux pas accepter Marie médiatrice. Ce n'est pas pour ça que je vais être l'anathème, je dis intellectuellement, je ne peux pas l'accepter, puisqu'il m'est dit le contraire dans les textes. Et aucun des textes de la Bible me dit que Marie est aussi la médiatrice. Ensuite, Marie co-rédemptrice, donc qui va sauver en même temps que Jésus. Vous savez que le rédempteur, c'est celui qui rachète un droit, un privilège, comme j'avais pu en parler à propos de Boaz et de Ruth lors de mes dernières interventions. Or, il est dit, et je ne vais pas redire les textes, que Jésus est le seul rédempteur. Et c'est tellement vrai que dans chapitre 1, à la réponse à la prière de l'ange qu'on vient de lire, Marie répond « Mais mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon sauveur. » Donc si je suis rédemptrice moi-même, je ne remercie pas la personne qui m'a sauvé, puisque je suis l'égal de lui. Enfin, l'assomption de la Vierge. Ça vient encore de plus loin, je ne comprends pas trop. Donc il y a juste la dernière fois où Marie apparaît, c'est dans l'acte 1, verset 14. Elle est avec les frères et sœurs, il est cité Marie, mère de Marie, ils attendent l'arrivée de la Pentecôte. Ensuite, on n'en parle plus. Rien. Il n'y a plus un mot sur Marie. Je suis désolé, moi, si Marie monte au ciel, forcément on va en parler. Dans les actes des apôtres ou dans les épîtres. C'est quand même un événement totalement incroyable. Quand, viens, tu vas m'aider. Quel est le. Élie, voilà, etc. On en parle. Je sais pas, ça n'arrive pas tous les jours. Donc, là encore, je me fais un peu l'homme naïf. Ce qui n'est pas dit, c'est que ça n'a pas eu lieu. Si on ne me dit pas que Marie est allée marcher un jour de Jérusalem à Bethléem pour ramasser des marguerites, je le comprends. Mais qu'on ne me dise pas qu'elle est montée au ciel directement, qu'elle n'a pas été enterrée, qu'elle n'est pas morte, moi je dis que c'est un événement extraordinaire. J'aurais adoré le lire. Or, je ne le lis pas. Alors, encore une fois, je n'essaie pas de détruire la foi des catholiques. Ce sont mes frères, on est chrétiens, et quand je les ai vus dans leur église et faire leur procession, j'étais tout à fait admiratif. J'essaie juste de comprendre. Et comme on n'en parle jamais de Marie, vous donnez juste des éléments pour que vous compreniez. Après, si on dit... Peut-être qu'on interprète mal, et peut-être que les catholiques, à juste titre, vont nous dire « Oui, mais quand il parle à la fin de l'Apocalypse, le verset, ça concernait que le livre de l'Apocalypse, mais qu'il y a encore une révélation. » Ok, ça après, ça va être la foi de chacun. Moi, je veux pas rentrer là-dedans et pas avoir de conflit sur ça. Ça m'intéresse absolument pas. Mais, voilà, je voulais juste vous donner quelques éléments de réflexion sur ça et vous dire que à la suite de toutes ces différents fusées, détaches de la fusée, Paul VI et Jean-Paul II ont pu parler de Marie comme la nouvelle Ève. Alors je renvoie à la prédication de Yann sur Ève, c'est-à-dire que la boucle est encore une fois bouclée. C'est-à-dire que... Et Ève, alors moi ça me paraît d'une maladresse exquise, parce que Ève, insuffisamment parlé, c'est quelqu'un qui... voilà, qui... si c'est la nouvelle Ève, à la limite, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que là, il y a encore une erreur d'interprétation sur le rôle d'Ève tel qu'il fut exactement. Un dernier point, c'est les guérisons. Dans tous ces centres mariales, Fatima, Lourdes, il y en a d'autres, il y a des guérisons. Alors, croyez que l'Église catholique est extrêmement rigoureuse sur ces guérisons. Il y a des étapes, des médecins, ça dure des années, des années, des années, pour éliminer les supercheries, pour éliminer les réactions naturelles d'ordre psychanalytique, etc. Et il y a quand même des guérisons qui, elles, sont attestées. Et des médecins laïcs et de bonne foi disent « on ne comprend pas ». Moi, je n'ai absolument pas la prétention de comprendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense Dieu capable de toutes les grâces, de toutes les bontés, à travers même quelque chose qui, moi, me paraît un peu à côté. Mais lui seul connaît le cœur de la personne qui est guérie et quelle est sa sincérité. Alors, les anti-papistes profonds dont je ne suis pas disent « oui, ben, c'est facile, c'est l'œuvre du diable, pour plaire, il va faire quelques guérisons ». Et ça, je trouve ça, là encore, je ne dis pas que c'est faux, mais on ne sait pas, on ne comprend pas, et il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, et admettons-le, et laissons Dieu libre d'avoir tous les moyens possibles à sa disposition pour amener quelqu'un à lui. Alors, ma conclusion de la conclusion de la conclusion, c'est, après tout ce que je vous ai lu, tout ce que je vous ai dit, qui est Marie ? Est-ce que c'est cette jeune fille, jeune femme, mère dont j'ai parlé tout au début, juste telle que nous racontent les textes ? Est-ce que c'est cet être extraordinaire tel que le magistère de l'Église catholique l'a mis en place depuis des siècles et des siècles ? Moi, vous savez a priori vers où je penche, mais j'éliminerai ce débat-là pour simplement vous dire que Marie, c'est un destin terrible. C'est un destin épouvantable. C'est peut-être, comme elle dit, tout le monde va me dire bienheureuse, mais ce bonheur-là, je le souhaite à peu de gens. En fait, elle a vécu tout ce que nous vivons, nous, en tant que chrétiens, mais elle l'a vécu à la puissance 1000. D'abord, c'est quelqu'un de normal, Marie. C'est pas une princesse, c'est pas une reine qui aurait été choisie spécialement en tant que super vierge. C'est rien. Dans un petit village, c'est vous, c'est moi. Comme nous. Mais à qui on fait le miracle de la révélation de Dieu ? Comme nous, on a pu avoir ce miracle-là, chacun a son histoire, comment il a rencontré Dieu. Sauf qu'elle, elle a rencontré avec un ange qui dit « Dieu, il va venir là ». Donc, excusez-moi, mais ça me place ça place la rencontre avec Dieu à un niveau vraiment fois mille. Ensuite, cette rencontre avec Dieu, nous, ça a pu nous poser des problèmes dans notre vie, peut-être avec notre famille, avec nos amis, mais elle, c'est terrible. C'est-à-dire qu'elle est en sainte alors qu'elle n'est pas mariée, donc elle vit le déshonneur, elle le doit fuir, elle a peur pour sa vie, peur pour la vie de son fils à naître. Donc, la peur, le doute, la terreur, c'est pas très très agréable. Ensuite, elle a, pendant toute la vie de son fils, elle va être en permanence dans le doute. Elle va jamais comprendre ce qui se passe. Elle voit son enfant qu'elle aime, pourtant on lui a révélé quelle serait sa mission. Comme nous, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, crois à toutes les promesses qui sont données pour toi. On croit une sur mille, on passe notre vie dans le doute et non comme elle, quand elle dit « Arrête, sors de là, viens pour toi, je veux te voir, je suis ta mère, fais ceci à Cana ». Elle se fait rembrouer tout le temps, elle ne comprend rien, Marie. Elle ne comprend rien. Évidemment qu'elle aime son fils comme nous aimons Jésus. Mais elle comprend une chose sur mille, comme nous comprenons une chose sur mille à notre relation avec Dieu, qui pourtant est en nous, et avec lequel nous sommes totalement liés. Ensuite, la mort de son fils. Nous pleurons, entre guillemets, symboliquement, la mort de Jésus sur la croix. Mais elle, c'est son sauveur qui meurt sur la croix. Mais en plus, c'est son fils. Alors nous, on est là, ouais, d'accord, mais imaginez, et il y en a certains qui c'est arrivé, donc je ne peux même pas le... La mort, donc, c'est ton sauveur, en plus, c'est ton fils. Donc, cette douleur qu'elle a, c'est multiplié par 100 000, parce que c'est la mort pour elle de ses péchés, mais c'est la mort de son sang, quand même. Et ensuite, elle est comme nous. Elle comprend rien, elle est abattue. Elle est abattue fois mille, pour les raisons que je vous ai dit, et elle est avec les apôtres, et elle reçoit, à ce moment-là, la révélation. Elle reçoit les Saint-Esprit. Et à partir de là, elle disparaît. Parce qu'à la limite, son histoire, qui nous dit quelque chose, pour nous, ça s'arrête là. Parce qu'ensuite, c'est sa vie à elle. C'est son histoire à elle, comme nous, c'est notre histoire à nous, c'est notre vie à nous. Une fois que, à la limite, on porte les gens, quand ils commencent à venir, à voir Dieu, on les porte jusqu'au baptême, on est là, puis après, on a fait ce qu'on a pu. Ensuite, c'est chacun pour soi, même si on peut s'entraider. Mais après, c'est ton destin. Que fais-tu de ce que tu as reçu ? Alors voilà, donc je m'excuse pour ceux qui auraient pu croire que j'ai pointé du doigt facilement les erreurs, entre guillemets, de l'Église catholique par rapport à ce qui est au-delà du texte, mais je ne me fais pas d'illusions. Au sein des Églises protestantes, on est tout à fait capable de s'entretuer et de ne pas se voir pour des arguties sur tel texte pré-apocalyptique, le Christ revient avant, après, etc. Et même au sein de notre Église, je sais qu'il y a certains sujets par exemple, sur Israël, etc., dont il ne faut pas parler parce que tout le monde commence à s'encrouter. Voilà, donc beaucoup de modestie par rapport à ça. Okay ? Évidemment, là, ça paraît gros, si on se place de notre point de vue intellectuel, que la Bible est tout, mais à l'intérieur de ce point de vue-là, on est tout à fait capable, nous-mêmes, de se créer nos propres schismes et nos propres erreurs intercommunautaires ou intracommunautaires. Donc soyons très humbles par rapport à tout ça. Ça n'avait... Tout ce que je vous ai dit, en fait, c'était juste pour arriver à ma conclusion sur Marie. Voyons aussi Marie, comme je vous l'ai dit, comme nous, exactement nous, mais fois 10 000, à tout point de vue. Merci.